peu de chefs d'État des pays riches. Après le G20, ils n'ont pas trouvé le temps de se rendre en Pologne, où s'est ouverte la COP24, la conférence de l'ONU sur le climat. Édouard Philippe a annulé au dernier moment sa participation pour essayer de régler la crise des gilets jaunes déclenchée par la hausse de la taxe carbone. Pourtant, en juillet dernier, c'est bien lui qui mettait en garde contre un scénario catastrophe, l'effondrement de notre civilisation.
Comment est-ce qu'on fait pour éviter que notre société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer? Et je trouve que cette question-là est une question assez obsédante.
L'effondrement, une idée obsédante et inquiétante, car cela fait des années que l'alerte a été donnée.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Il y a 3 ans, lors de la COP21, l'accord de Paris sur le climat avait soulevé d'immenses espoirs.
On a un accord.
Bravo, c'est un super accord. On est très contents.
Mais depuis, l'euphorie est retombée. La planète continue de se réchauffer. Les catastrophes naturelles se multiplient. Une urgence climatique remise en cause par des chefs d'État climato-sceptiques. Jair Bolsonaro au Brésil et Donald Trump aux États-Unis.
Je n'y crois pas. Nous sommes plus propres que nous l'avons jamais été. Mais si nous sommes propres et que tous les autres endroits de la Terre sont sales, ce n'est pas si bon.
Alors la transition écologique va-t-elle demeurer une utopie? Peut-on encore enrayer la hausse des températures et limiter les impacts sans précédent du dérèglement climatique? Ou est-il déjà trop tard?
Tout de suite, il rappelle d'abord qu'aucun chef d'État du G20 ne sera présent à la COP24 et demande si ça signe le peu d'importance que les pays riches accordent au réchauffement climatique. Bettina Laville, à quoi va servir cette COP24? Est-ce qu'elle peut accoucher de quelque chose d'utile et de salvateur, puisque c'est censé être l'objectif de ce sommet?
Alors d'abord, la COP24 n'est pas un sommet de chef d'État. C'est une conférence, j'allais dire ordinaire, de suivi de l'accord de Paris. Et donc, elle va servir à quelque chose, parce que ce qu'on ne sait pas,
c'est
qu'il
y a un signal politique.
Il n'y a pas encore d'accord de Paris. Il y a un accord ratifié, mais les règles de l'accord de Paris ne fonctionnent pas. Donc, les négociateurs ont 230 pages exactement à ratifier pour qu'en 2020, l'accord fonctionne.
Malgré tout, les chefs d'État désertent, on est d'accord là-dessus?
Non, ils ne désertent pas parce que ce n'est pas de leur niveau. Je veux dire, voilà, sur le plan diplomatique, ce n'est pas de leur niveau. À part ça, que ce soit une COP qui n'est pas, je veux dire, une aura extraordinaire, juste avant qu'on l'ouvre, à cause de ce qu'on sait du président du Brésil, de l'attitude des États-Unis et de toutes les épouvantables nouvelles que nous recevons, le contexte est très mauvais. Mais ce n'est pas un signe en soi. Les chefs d'État, cette fois-là, en 2020, en revanche, oui, et même en septembre 2019, lors de l'Assemblée générale de l'ONU.
Jean-Baptiste Fressoz, se concentrer sur le CO2, c'est ce qui est tout de même à l'ordre du jour, dans la COP24 en l'occurrence, c'est la bonne manière de voir les choses, ou c'est insuffisant ou parcellaire?
Disons qu'il y a tout plein d'autres sujets tout aussi graves, la crise de la biodiversité en état, mais c'est une manière certaine d'agir sur la question du changement climatique, donc oui, c'est une bonne façon. Mais ce qu'il faudrait, c'est parler en fait des sources du CO2, donc de la globalisation économique, des transports internationaux, des modes de production, etc. Oui.
D'accord. Claude, le chiffre du jour.
Qui illustre la mauvaise ambiance qui précède cette COP24, 3,2 comme le réchauffement climatique, comme l'accroissement de la température mondiale qui pourrait survenir d'ici la fin du siècle. C'est un chiffre qui vient d'être donné par l'ONU. Je vous rappelle qu'à la COP de Paris, on parlait de 1,5 degré ou de 2 degrés, non, 3,2. Question pour vous, Delphine Bateau. On est sur cette pente de plus de 3,2 degrés à la fin du siècle. Est-ce que c'est cela qui nourrit ce qu'on appelle les scénarios de l'effondrement de nos civilisations?
C'est pas un scénario, c'est une réalité. Pour ce qui est de la biodiversité, on est aujourd'hui sur un effondrement de la biodiversité au point que les scientifiques disent, si on comparait avec un accident nucléaire, on dirait qu'on est au moment de la fusion du cœur. Bon. Pour le climat, on est effectivement sur une trajectoire que rien n'arrête pour l'instant. 3,2, c'est aussi le pourcentage d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en France en 2017. C'est là qu'il y a un décalage entre la COP et l'accord de Paris. En fin de compte, ça devait être quoi? Ça devait être un point de départ. C'était un commencement. Et on savait très bien, au moment de l'accord de Paris, que la somme des engagements des États qui étaient dedans était insuffisante. Mais c'était une base pour aller plus loin et pour faire mieux, pour faire plus. Et effectivement, la décision des États-Unis, et pas seulement des États-Unis, maintenant le Brésil, l'Australie, etc., casse cette logique d'engagement de la communauté internationale en faveur du climat.
Bettina Laville, 3,2 degrés, ça signifie plus quoi en termes degrés. Plus 3,2 degrés, ça signifie quoi en termes de perte de vie humaine, en termes d'inondation? L'ancien ministre de l'Environnement, Yves Cochet, explique qu'il pense que la population mondiale finira par diminuer de 40%. On imagine des cadavres empilés. Nous allons vers cela. Est-ce que vous arrivez à en sourire vraiment?
Oui, non, je souris parce que, d'abord, 3,2, c'est peut-être le chiffre que vient de donner l'ONU. Mais ce n'est pas le chiffre de scientifique. D'abord, c'est un chiffre qui change par rapport aux mesures qu'on va prendre. Le réchauffement, il est entre 2 degrés et 5-6 degrés. Il y a même une étude récente qui dit 7. Voilà. Suivant l'attitude que l'humanité va avoir, que les responsables vont avoir, que nous allons tous avoir par rapport aux mesures contre le réchauffement. Donc, le 3,2, en revanche, ce qui était intéressant, c'est que c'est le chiffre de l'accord de Paris, c'est-à-dire l'accord de Paris dit très clairement, dans le texte de l'accord, si on additionne les efforts que viennent de déposer devant nous l'ensemble des pays, on arrive quand même à un réchauffement
et c'est trop.
De 3,2.
Et, c'est beaucoup trop.
Oui, voilà,
et un complément, c'est que les engagements en question, aujourd'hui, ne sont pas tenus.
Qu'est-ce qu'un monde à 3,2 degrés ?
Ils ne sont pas
Qu'est-ce qu'un monde à 3,2 degrés ?
C'est un monde invivable. Mais déjà, 2 degrés, quand on dit qu'il faut essayer de maîtriser en restant à 2 degrés, il y a une étude de Météo France qui dit que 2 degrés... Parce que quand on dit 2 degrés, c'est en moyenne planétaire. Donc ça peut vouloir dire beaucoup plus, par exemple, pour la France métropolitaine, avec une étude de Météo France qui dit que ça sera, au moment des canicules, par exemple, des records à 55 degrés dans l'est de la France. Donc 3,2 degrés, c'est un monde invivable. Et si, en fait, il y a ce seuil-là de 1,5 ou de 2 degrés qui a été fixé, on peut dire que c'est un chiffre politique, c'est vrai, mais c'est aussi un chiffre politique défini sur la base de travaux scientifiques comme étant le seuil où les catastrophes reste dans un périmètre relativement maîtrisable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de catastrophe et qu'il n'y a pas de conséquences.
Jean-Baptiste Fressoz, contestez-vous ou trouvez-vous qu'on y va un peu trop à la louche avec cette théorie de l'effondrement qui a surgi dans les années 70? C'était le Club de Rome, le rapport Meadows, et puis c'est revenu. Le pape l'a employé dans son encyclique Laudato Si. Le Premier ministre, c'est très à la mode aux États-Unis. Et vous considérez que l'effondrement doit être pris avec beaucoup de précautions?
Le problème de la théorie de l'effondrement, telle qu'elle est popularisée en ce moment, c'est qu'elle mélange deux choses, le pic du pétrole, le pic des ressources fossiles et l'extinction de la biodiversité, le changement climatique. La deuxième partie est avérée, on est en train d'en discuter, ça fait consensus, il n'y a aucun problème. La première partie qui en fait est vraiment le moteur d'un effondrement éventuel de la civilisation industrielle, ça on se rend compte malheureusement qu'il y a encore beaucoup de pétrole, beaucoup de charbon surtout, et donc on peut continuer en fait comme ça pendant très longtemps. Donc en gros, le capital...
Mais plus on continue, plus on étouffe, ce qui est une autre forme d'effondrement.
Mais en gros, pour dire les choses simplement, en gros le capital industriel se porte bien. On pourrait continuer comme ça très longtemps. Le problème, c'est qu'on enfonce des sortes de frontières assez molles où on a les effets retours bien plus tard, en fait. Et l'autre problème aussi, c'est que l'effondrement, quand je disais que c'est une écologie de riche dans un papier, c'est simplement que, en fait, ce qu'on vit, c'est plutôt une forme d'apartheid climatique. C'est-à-dire, c'est les riches des pays riches qui, en changeant le climat, on peut continuer à faire longtemps ce que je viens d'expliquer,
font porter le fardeau sur les pauvres
des pays pauvres. C'est l'extraordinaire injustice, moi, de la situation du changement climatique qui me frappe, parce que les émissions de CO2, il faut bien voir qu'on en profite. Enfin, je veux dire, ça sert quand même à créer de la croissance, des déplacements, etc. Mais c'est
une toute petite partie de la population
qui en profite, et ça impacte les pauvres des pays pauvres. Voilà, c'est ça, ça me semble être ça, le vrai enjeu, c'est une question de justice climatique, plutôt qu'un effondrement généralisé, parce que c'est pas du tout ça qu'on est en train de vivre, c'est pas un effondrement généralisé.
Avec le problème que les pays pauvres aspirent malheureusement à ce mode de développement. Donc,
à un niveau de vie proche de celui des pays riches.
Voilà, c'est ça.